peut-être pour prendre une voix plus neutre.
Pour nous rapprocher, oui. Pour être très très très.
Il faut que je prenne une voix plus neutre. Sur le coup, je me suis dit, c'est pas neutre comme histoire. Bon, on recommence.
On y va, Arthur ?
Oui.
Histoire 2. Bonjour et bienvenue dans Histoire 2, l'émission de documentaire et création sonore de Studio Zef. Histoire de dire, histoire de blois, histoire de voir, Histoire 2 vous invite à des escapades sonores en bas de chez nous. Peut-être chez vous, vers la rencontre. En ce printemps 2024, Histoire 2 vous propose une série de plusieurs épisodes consacrés aux archives départementales du Loir-et-Cher. Ces archives, écrites, manuscrites, nous ne les verrons pas puisque nous faisons de la radio. Tout passera donc par la voix et le regard, celui de l'archiviste qui les sort de leur silence et celui de l'historien qui vient tirer le fil de la grande histoire. Pour ce troisième épisode, nous plongeons avec Cécile au début de la Troisième République et au cœur des valeurs progressistes par le prisme de l'agriculture. Cécile a choisi de nous faire découvrir une affiche destinée à être un sujet de leçon d'agriculture à l'école primaire, intitulée « Nitrate de soude et phosphate de chaux, la récolte des céréales en 1889, ce que nous devons récolter en 1900 ». Et pour continuer cette série, c'est Rémi Luglia, historien et président de la Société nationale de protection de la nature, qui tirera le fil de l'histoire.
J'avais pensé à deux choses qui étaient quand même assez sympathiques. On cherche un petit peu dans nos collections d'affiches ici présentes aux archives départementales. On peut trouver des documents tout à fait intéressants, comme par exemple cette affiche ici, là, qui est destinée à être un sujet de leçon d'agriculture à l'école primaire. Donc le titre, c'est « Nitrate de soude et phosphate de chaux ». La récolte française des céréales en 1889, ce que nous devons récolter en 1900. Et en fait, dans cette affiche, il s'agit de s'adresser aux instituteurs qui vont devoir expliquer à leurs élèves l'intérêt d'utiliser des engrais chimiques et d'en faire une démonstration aussi pour d'autres personnes qui seraient intéressées, notamment les agriculteurs du village.
De tous les paysages que nous offre la campagne française, celui de la ferme entre ses bobteaux d'arbres est le plus significatif. Le hennissement du cheval, la charrue qui va au champ, il n'est pas de spectacle plus ancien pour traduire la peine des hommes. Tous les peintres, tous les poètes ont voulu fixer l'image du champ retourné, du paysan guidant le soc d'un geste héréditaire. Mais le paysan, lui, s'il n'est pas insensible à la beauté de sa tâche, en connaît surtout le prix en effort et fatigue. Car ils sont nombreux ceux qui poursuivent sans machine le travail des labours et des moissons.
Cette affiche est vraiment intéressante parce qu'elle est datée, elle est effectivement à contextualiser. On est au début de la Troisième République en France et on voit très tout à fait la logique qui se met à l'œuvre, une logique à la fois politique mais aussi sociale et culturelle puisqu'il s'agit d'éduquer les populations rurales pour leur permettre de mieux vivre et ainsi de les ancrer dans la République, pour qu'ils puissent être des soutiens du régime et non plus être éventuellement tentés soit par le monarchisme, soit par le bonapartisme. Donc on est dans ce contexte-là idéologique particulier d'armement, on va dire, de la République par les instituteurs. Et bien sûr, le souhait, c'est que cela s'accompagne d'un progrès social qui serait fondé sur un progrès économique. On est à la fin du 19e siècle, l'idéologie progressiste est absolument très, très prégnante. Et le document historique là que l'on étudie baigne totalement dans cette idéologie progressiste. Hein. C'est le progrès qui va sauver l'humanité et apporter le bien-être à l'ensemble des populations. Et donc, les instituteurs de la Troisième République, on va leur demander beaucoup de choses, et notamment d'éduquer les enfants de paysans pour qu'ils puissent aussi en même temps transmettre ces savoirs à leurs parents et faire évoluer les modes de production. Donc on le fait sur ce sujet agricole, mais on le fait sur bien d'autres sujets.
Alors par exemple, au tout début du document, On a dans l'introduction un paragraphe tout à fait intéressant qui incite les instituteurs à œuvrer dans ce sens. Alors, nous avons pensé qu'un tableau résumant les traits essentiels du progrès facilement réalisable dans cette voie ne pouvait être mieux placé qu'à l'école primaire. Examiné par les enfants dont l'esprit sera frappé par la comparaison des récoltes obtenues avec ou sans engrais, consulté par les cultivateurs de la commune, commenté par les instituteurs qui y trouveront un sujet de causeries intéressantes, cette courte notice portera, nous l'espérons, la conviction dans l'esprit de tous en ce qui regarde l'importance du but à atteindre et la simplicité des moyens à employer. Alors, le but à atteindre, c'est notamment, dans cette affiche, c'est de nourrir la population. L'intérêt, c'est d'accroître le rendement de la production des céréales et notamment celle de blé, pour éviter d'être importateur de blé, puisqu'on apprend dans cette affiche que déjà en 1889, on importait du blé pour pouvoir nourrir la population. Et l'ambition extrême est de devenir soi-même exportateur de blé, que la France devienne exportatrice de blé.
Effectivement, la grande crainte du 19e siècle, en France, mais pas que en France, c'est la crainte de manquer. De manquer d'aliments, de manquer de produits agricoles. Et ça se voit pour ce qui concerne le blé, mais ça concerne aussi le dépeuplement des cours d'eau en poisson. Ça concerne la difficulté à maintenir des ressources suffisantes en matière de pêche maritime. Ça concerne aussi des inquiétudes sur la capacité de la France à produire suffisamment de bois. Voilà, donc ça concerne tout un tas de segments de la société où on a besoin, avec une population qui est quand même plutôt importante hein, par rapport au reste de l'Europe et qui reste un peu en croissance, cette nécessité d'arriver à augmenter les ressources dont on dispose. Ben, on est issu de la période d'Ancien Régime, de l'époque moderne, où on avait des cycles hein, bien connus, augmentation de la population, crise frumentaire notamment, hein, avec disette, éventuellement famine et épidémie, puis de nouveau une croissance de la population et de nouveau une crise alimentaire, etc. Donc on a ce cycle-là que l'on connaît à l'époque. Et puis la crainte, c'est aussi les troubles politiques. Révolution française, tout le monde sait qu'elle est née, notamment parce qu'il y avait une tension sur les questions alimentaires. Les révolutions de 1830, 1848, tous ces moments un peu de crise sont liés aussi à des crises agricoles, à des craintes comme cela. Et encore une fois, on a une population qui grossit et voilà, on souhaite stabiliser véritablement leur alimentation. Voilà, donc on a cette grande crainte au 19e siècle d'arriver à nourrir tout le monde.
Donc, dans l'affiche, on a tout un déroulé argumentatif très organisé en paragraphes avec, par exemple, en première intention, pourquoi et comment il faut nourrir les plantes. Ensuite, épuisement de la terre par la culture. Troisième paragraphe, soin à donner au fumier, parce qu'on apprend aussi qu'il faut continuer à utiliser le fumier, mais en l'enrichissant. Quatrième paragraphe, phosphatons nos fumiers. Le cinquième argument, c'est associons le nitrate au phosphate. Donc là, on explique pourquoi le nitrate est indispensable pour augmenter le rendement. En sixième paragraphe, on augmente le rendement, on explique l'augmentation du rendement dû au nitrate. En septième argument, réparation des dégâts causés par l'hiver, où là, on explique un petit peu à quel moment il faut utiliser ces engrais et quelle est la meilleure période pour les utiliser. Et ensuite, on a une conclusion où on incite à nouveau, on fait un bilan chiffré, parce qu'à chaque fois, on a quand même des données très chiffrées, où on explique que l'instituteur sera celui qui sera le plus utile dans l'information de l'utilisation de ces engrais.
Alors ici, quand on parle d'engrais chimiques, en réalité, ce sont des minéraux. Donc, c'est des engrais que l'on va, en partie, hein, aller chercher dans des mines. Bon, il y a avec parfois, et de plus en plus d'ailleurs, des procédés chimiques pour les synthétiser. Mais c'est vraiment les tout débuts de cette chimie-là. Et elle va se développer surtout à partir du début du XXe siècle, hein, où là, on va avoir vraiment un essor important de cette chimie agricole, on va dire. En fait, ici, c'est le moment où on propose cette solution très technique, hein, très progressiste. Par cette solution miracle de l'engrais chimique, on propose une révolution complète dans le système agricole français sur un modèle qu'on va appeler un modèle anglais, qui est apparu au XVIIIe siècle. Hein. C'est un modèle capitaliste, un modèle spéculatif, qui fait intervenir des formes de modernisation avec davantage de machines agricoles, avec davantage, je dirais, d'intensification avec des produits importés, notamment, hein, que ce soit des engrais qui viennent, ce qu'on appelait le guano auparavant, hein, donc des déchets d'oiseaux marins qu'on ramenait par bateau entier, ou des engrais synthétisés qui soient chimiques. Et donc, on transforme profondément ainsi le paysage agricole.
Dans la plupart des cas, les engrais, pour être efficaces, n'auront à apporter au sol que l'acide phosphorique et le nitrate, plus rarement de la potasse, la plus grande partie de nos terres renfermant ce corps en quantité suffisante. Pour être fertile, la terre doit renfermer des quantités suffisantes de phosphate et de nitrate, seule source d'azote des céréales, associée à la chaux, à la potasse, à la magnésie, au fer et au soufre, qui font très rarement défaut dans le sol. Ils s'aperçoivent en fait que les terres s'appauvrissent dans ces minéraux par rapport à la croissance des plantes, que la terre n'a pas le temps de se régénérer et d'apporter constamment la même quantité de minéraux. Alors, c'est un peu étrange aussi parce qu'on oublie le Moyen-Âge et le temps des jachères, finalement, où on avait le plan triennal de culture des plantes. Il fallait un champ, le cultiver, on y mettait notre culture l'année d'après, puis on laissait une année les sols se régénérer.
Et à l'inverse, on délaisse d'autres solutions qui existaient depuis très longtemps, et qui ont fait en grande partie leur preuve. C'est tout ce qui est autour des rotations des cultures, tout ce qui est autour, on le dit un peu, de l'utilisation des fumiers, tout ce qui est autour aussi des sélections de plantes, hein, plus locales, plus résistantes, mieux adaptées au territoire, qui demandent moins d'investissement de la part de l'agriculteur. Tout ça, on va le mettre de côté pour entrer dans un système capitalistique et commercial. On est dans un début de mondialisation. Et donc, il faut qu'on soit compétitif pour proposer des productions de plus en plus standardisées à l'ensemble de la planète. Voilà, donc on est vraiment sur, juste par ce simple document, on voit bien qu'on est sur la proposition d'un nouveau modèle qui transforme les choses.
Rassurés par cette politique protectionniste, les exploitants font preuve d'une plus grande confiance, d'une nouvelle mentalité. Ils délaissent les terres marginales, les parcelles à faible rendement, le défrichement des landes. Il ne s'agit plus de conquérir des terres, mais d'exploiter celles qui sont productives et de les exploiter au mieux.
Pour étayer la leçon d'agriculture, on a des illustrations qui sont présentées sur l'affiche. Donc, trois illustrations. Les deux premières sont mises l'une à côté de l'autre. Il s'agit d'un champ à Tomblaine, donc c'est dans la Meurthe-et-Moselle, où on voit le avant-après, en fait, de l'instauration du nitrate et du phosphate. Donc le champ de misère à Tomblaine, sans nitrate ni phosphate. La récolte était estimée à 10 hectolitres à l'hectare. Et à côté, en parallèle, donc le même champ, avec l'utilisation de nitrate et de phosphate, et la récolte est arrivée à 25 hectolitres à l'hectare. En dessous, on a aussi une autre illustration, une partie du champ qui a reçu du nitrate et du phosphate, et une autre partie qui a été phosphatée mais sans nitrate, pour aussi montrer l'intérêt d'utiliser le nitrate en complément du phosphate.
Donc lorsqu'il y a des engrais, les photos montrent des champs de blé un peu plus touffus.
Oui, c'est ça, oui, et tout à fait. On voit que les plantes sont vigoureuses sur les parties phosphatées et nitratées, plus denses, Les plantes ont l'air en meilleure santé. Voilà, l'argument est très visuel, en fait.
Mais ce document, en même temps, est assez mensonger. Parce qu'il se veut très démonstratif en apportant des chiffres. Mais une partie de ces chiffres sont faux. Clairement. Et un certain nombre de problèmes causés par cette transformation-là sont passés sous silence ou simplement évoqués sans s'y attacher. Parce que l'idée de ce document, c'est de dire que l'agriculteur va pouvoir s'enrichir grâce à l'utilisation d'engrais chimiques, parce qu'il va augmenter ses rendements. Le calcul est faux, parce que on part sur la base d'un maintien des prix des céréales. Or, si la production, comme elle est souhaitée, double, les prix vont s'effondrer. C'est-à-dire que tout le calcul qui est fait pour dire vous allez investir en achetant notamment des engrais chimiques, parce qu'il faut les payer ces engrais chimiques, ça va vous permettre d'augmenter vos revenus. En fait, c'est biaisé. L'agriculteur va acheter des engrais chimiques, va avoir une production plus abondante, de meilleurs rendements. Il va vouloir ensuite aller vendre ce grain plus nombreux sur le marché, mais il ne sera pas le seul à le faire. Les autres agriculteurs vont le faire également. Il y aura une surproduction de grains momentanée, les prix vont s'effondrer et certains agriculteurs vont sans doute avoir du mal à boucler leur fin de mois parce qu'ils ne pourront plus rémunérer rentabiliser leurs investissements. Voilà, donc on a un choix économique qui est proposé aux agriculteurs qui est d'une certaine façon un piège. Certains vont bien s'en sortir, les plus gros. Et c'est pour ça qu'on parle d'une mutation capitalistique du système agricole français à partir de ce moment-là, alors que les plus petits, eux, ne vont pas pouvoir augmenter leur production, ne vont pas pouvoir investir ce capital, et ils vont devoir soit rester dans une certaine misère, soit rentrer dans une logique d'exode rural, ce qui va être intéressant pour la France, parce que ça va faire une population que l'on va pouvoir utiliser comme une population ouvrière à moindre coût. Et donc, on va être dans ces logiques qui vont se développer ensuite dans les années 20-30 et surtout après la Seconde Guerre mondiale, d'exode rural où une population agricole devient finalement une population ouvrière. Voilà, je synthétise à grands traits les phénomènes, mais vous voyez qu'on n'est pas dans un document neutre dans la présentation, même s'il a toutes les apparences de cette neutralité, mais on est sur la proposition très convaincante d'une transformation en profondeur du système agricole et rural français.
Confrontée à des problèmes de main-d'œuvre devenus plus rares et plus chers, l'agriculture modernise aussi ses exploitations et ses techniques de production. Le parc des faucheuses double en 10 ans. Celui des moissonneuses s'accroît de moitié. Les locomotives ou machines à vapeur utilisées en agriculture se multiplient. Parallèlement, les rendements sont accrus par la sélection des graines et des plants et par l'emploi d'engrais et d'amendements. L'ère des engrais chimiques commence. Leur consommation, évaluée à 800 000 tonnes en 1890, atteint le double 10 ans plus tard. Des progrès liés également à la recherche scientifique, microbiologie et géologie agricole par exemple, et au développement de la génétique animale. Au début du XXe siècle, chaque région commence à avoir ses blés de pays, ses races bovines locales, avec des rendements en nette progression, plus 30% pour le blé, plus 25% pour la pomme de terre, par exemple.
Alors, il compare, tu sais, tout le temps, il compare la production française à la production anglaise, donc qui, eux, utilisent déjà des engrais chimiques. Et c'est un argument supplémentaire pour eux, pour essayer de convaincre aussi de l'utilisation de ces engrais, parce qu'ils font remarquer que la production anglaise, elle, a augmenté le double, je crois, il me semble, alors que malgré tous les soins apportés aux cultures françaises, eh bien, on a augmenté de 50% la production. Donc voilà, c'est une, pour eux, c'est un argument, c'est, voilà, c'est une démonstration mathématique qu'il faut utiliser les engrais chimiques.
J'évoquais aussi tout à l'heure, pour arriver au sujet de l'environnement, qu'il y avait un certain nombre de défauts du système qui étaient un peu passés sous silence. Il y a un moment donné, dans le document, on évoque que les engrais, eh bien, c'est intéressant d'en mettre beaucoup dans les champs parce que, c'est dit ainsi, une très grande partie va rester dans le sol pour l'année suivante. Voilà. Et en disant ça, là aussi, c'est faux. En fait, la partie ne va pas rester dans le sol. Elle va être emportée par les eaux de pluie, par les ruissellements. Elle va finir dans les cours d'eau. Et finalement, ces engrais vont contaminer toute la chaîne trophique, vont contaminer tous les milieux naturels. Et ça, c'est quelque chose qu'on laisse un peu en suspens. En fait, quand on met de l'engrais dans un champ, tout n'est pas consommé par les plantes. Et si on en met trop, eh bien, effectivement, ça vient déstructurer profondément tous les écosystèmes. Voilà. Donc, on a déjà ici en germe les ressorts de la crise écologique et environnementale que l'on connaît au XXe et même encore au XXIe siècle.
À court terme, le protectionnisme fait donc sortir l'agriculture du marasme dans lequel elle était plongée. Elle devient plus performante, plus moderne. Cette mesure permet aussi de ralentir les importations. 31% de baisse pour les produits alimentaires entre 1897 et 1907. En revanche, cette politique entraîne des guerres douanières avec les pays voisins, rendant de plus en plus difficile l'écoulement de certains produits hors du territoire national. Les exportations régressent alors de 27% en 20 ans. Le protectionnisme ne satisfait d'ailleurs pas la totalité des paysans. Les vignerons languedociens, par exemple, réclament une protection de plus en plus forte, alors que bourguignons ou champenois veulent revenir à une politique douanière libérale. Pour d'autres, ce n'est qu'un palliatif, une mesure d'urgence. L'essentiel est d'obtenir des prix compétitifs, donc d'abaisser les coûts de production. Seul moyen efficace, selon eux, pour rivaliser sur les marchés intérieurs et extérieurs.
Alors, on ne peut pas tellement parler, à la fin du 19e, de conscience écologique. Le mot n'existe pas de cette façon-là, comme le terme d'environnement n'est pas utilisé, n'existe pas en France dans la façon dont on l'utilise, nous, au XXIe siècle, et même au XXe siècle. Pourtant, il y a quand même des débuts, on va dire, des réflexions qui laissent à penser que certains sont conscients de ce qui se passe dans le monde et sont conscients d'une certaine dégradation de la nature et une dégradation qui va en s'accélérant. Et donc ceux qui sont conscients de cela, ce sont d'abord des scientifiques, mais différents de ceux qu'on vient d'étudier dans ce monde agricole, plutôt ce qu'on appelle des naturalistes, donc des personnes qui s'intéressent aux animaux ou aux plantes sauvages et qui essayent de les observer dans leur milieu. Et ceux-ci ont conscience d'une vraie dégradation du vivant. Ceux qui sont inquiets aussi, c'est ceux qui s'aperçoivent de la raréfaction d'un certain nombre de ressources. Il y a moins de poissons dans les cours d'eau, il y a moins de gibier dans les campagnes, il y a moins d'oiseaux migrateurs, il y a moins de forêts, il y a des plantes qui disparaissent, il y a des espèces qui s'éteignent. Et ça va alerter un certain nombre de personnes. Donc voilà, on a quand même, dès cette époque-là, une conscience d'une certaine dégradation du monde vivant sous l'effet de cette modernisation du monde, hein. Donc industrialisation, mondialisation, intensification agricole, artificialisation par l'urbanisation, ce sont des choses dont on a conscience à l'époque.
Parmi notre collection d'affiches, on retrouve d'autres affiches dont les préoccupations actuelles sont déjà signalées il y a plus d'un siècle. Et alors, on a ce sujet sur l'agriculture là, avec cette affiche-là, sachant qu'à l'époque, forcément, ils préconisaient l'utilisation d'engrais chimiques, ne sachant pas les conséquences sur l'environnement. Mais on a aussi, par exemple, une affiche sur le changement d'heure. Ça semble tout bête, mais déjà, il y a un souci d'économiser l'énergie, d'économiser le pétrole, d'économiser le charbon. On a ce témoignage dans une des affiches de nos collections. Et on a également une affiche qui parle de la protection des abeilles, il y a plus d'un siècle, où on dit qu'il faut faire attention à nos abeilles parce qu'elles sont là pour
pour produire naturellement les fruits, les légumes, etc. C'est pas les légumes, les fruits surtout.
Combien ignorent encore aujourd'hui les commodités de la charrue à disque? Certes, le geste de l'homme, la courbe du bras au travail sont plus spectaculaires, mais bien plus pénibles et moins efficaces. Laissons aux gens de la ville le soin de regretter les belles images qui remontent du fond des arbres. L'agriculteur, lui, et l'ouvrier des champs préfèrent la souplesse de la machine, la régularité des semailles qu'elle accomplit, au geste du semeur si auguste qui le laisse fourbu à la fin de sa journée.
Est-ce que tu peux me lire la conclusion ?
Nourrissons bien notre bétail et donnons tous nos soins au fumier des tables. Phosphatons nos litières et nitratons nos champs, nous trouverons dans l'excédent de récolte une large rémunération de nos peines et de l'avance faite au sol. Si, par enchantement, comme au temps jadis, l'œuvre de progrès assignée plus haut à la fin du siècle se réalisait, pour le froment seulement, les cultivateurs verraient en une année leurs bénéfices s'augmenter de plus de 400 millions sur cette seule récolte.
Cette journée de labeur, qui ne s'achève qu'avec le crépuscule, au son de la cloche du dîner, autour de la table où fume la soupe. Devant la sérénité de ce repas à la ferme et le spectacle de ces travailleurs qui participent à la grande tâche de renaissance que l'agriculture française poursuit, on oublie un peu les mois et les années de misère et d'angoisse que cette même agriculture française a traversées.
Où sont les fées bienfaisantes qui nous apporteront ces millions ? À nos portes. Il nous suffit de les appeler à notre aide. Elles s'appellent l'instruction et l'association. Instruisons-nous, associons-nous. Le gouvernement de la République nous en donne libéralement les moyens. Il nous y convie par ses écoles, par les concours de tout genre qu'il offre à nos cultivateurs, par la loi sur les syndicats agricoles, la création des chaires départementales, des écoles pratiques, des stations agronomiques, des champs de démonstration. Jamais les pouvoirs publics n'ont témoigné pareille sollicitude pour les intérêts de l'agriculture, souci égal pour la propagation de l'instruction jusqu'au hameau le plus reculé. L'avenir de l'agriculture, celui de la nation française par conséquent, est dans l'association étroite de la science, du capital et du travail. Savoir, pouvoir, vouloir, telle est la devise du progrès. L'instruction et l'association en permettent la réalisation. À chacun d'y aider ardemment pour le bien-être et la grandeur de notre cher pays.
Et donc l'affiche est signée par un certain monsieur Grandeau.
Oui, c'est le directeur de la station agronomique de l'Est et du laboratoire de la Société nationale d'encouragement à l'agriculture.
À la fin de ce document, ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir que l'auteur synthétise en quelque sorte ce qu'il appelle le progrès. Il le décrit avec trois mots, science, capital, travail. Voilà. Donc ça se traduit par trois verbes d'action pour lui. Donc on voit bien que là, il ne s'agit pas de s'adapter aux forces de la nature, ce qu'on appelle actuellement les écosystèmes ou les équilibres écologiques, mais il s'agit de plier cette nature à la volonté humaine, par la technique.
En fait, quand je ne sais pas si tous les archivistes sont comme ça, mais en tout cas, pour ma part, j'aime bien, j'attache un amour particulier, c'est bizarre de dire amour d'ailleurs, à l'état du document. Et moi, j'ai une approche hyper sensible des archives. J'aime bien en prendre soin. Voilà.
Voilà. Donc, on est bien sur une vision particulière de ce qu'on appelle le progrès, qui est vraiment bien daté d'une époque. On en voit encore les traces actuellement, on en est encore les héritiers. Et encore une fois, on entend souvent autour de nous la solution à notre crise écologique actuelle. On entend souvent certains nous proposer une solution exclusivement technique, alors que la logique de sobriété, par exemple, qui demande beaucoup moins d'innovation technique, serait peut-être préférable.
On n'a pas vocation à donner notre avis. On n'a pas vocation à dire « dans ce document, il dit ça, mais lui, il a tort ». Non. Nous, on décrit, on donne l'information, et c'est le chercheur, après, qui vient et qui utilise les archives. J'ai l'impression de prendre soin des gens d'une autre façon que mon métier d'enseignant quand j'étais enseignante. Je prends soin, je m'occupe encore des autres, mais d'une autre façon, en m'occupant des défunts, quelque part,
et en allant m'en occuper pour que les futurs, enfin les personnes actuelles et les générations futures puissent connaître, prendre connaissance, savoir, leur transmettre en fait des connaissances.